ouvrant les yeux chaque matin, l'enfant se demande si le fouet ne va pas les lui faire fermer. C'est l'épicier qui le brandit et en fait trop souvent claquer les lanières sur sa peau. L'épicier de Taganrog, le fils de Serre, qui fait régner la terreur jusque sur Eugénie, sa femme, la mère donc de cet enfant élevé dans la violence aveugle, la grossièreté et l'ignorance. Ça commence, vous le voyez, comme une histoire à la Dickens. L'histoire d'un enfant qui n'a pas eu d'enfance, ou dont l'enfance, il l'a dit, a été empoisonnée par des choses terribles. Si France Culture a fait de cette histoire une sorte de conte de Noël, c'est qu'en perdant son enfance, notre héros va trouver le contrepoison, et ce sera l'écriture. Je veux parler, bien entendu, d'Anton Tchekhov, en compagnie de qui notre chaîne a décidé de dire adieu à 2003 en explorant l'œuvre dans ses états familiers et inconnus. En 1890, par exemple, vous vous souvenez peut-être que Tchekhov s'est rendu au bagne de Sakhalin pour appréhender de ses propres yeux une institution qui lui paraissait scandaleuse. Son témoignage, l'île de Sakhalin, paraîtra 3 ans plus tard en lieu et place de sa thèse de médecine. Sakhalin, on n'y arrivait pas à l'époque d'un coup de TGV. C'était à 10 000 km de Moscou et Tchekhov mettra 3 mois pour atteindre le plus isolé des bagnes russes. Le photographe Jean-Hugues Béroux a voulu revenir sur les pas de Tchekhov avec le dessinateur Pascal Rabaté. Ils ont rapporté 3 émissions réalisées par Jean Couturier que nous allons diffuser à partir de ce soir et jusqu'à mercredi. Tchekhov, le jeune Tchekhov, il n'a pas 20 ans, est parmi nous ces jours-ci avec sa première pièce, préfiguration de La Cerisaie, Oncle Vania et La Mouette, montée par Jacques Lassalle à la Comédie Française dans la traduction de Rezvani. Platonov, ou pour citer son titre jusqu'au bout, le fléau de l'absence des pères. Joël Gaillot a voulu, avec le metteur en scène et les acteurs, notamment Denis Podalydès, nous faire entrer dans la fabrique du spectacle pour nous en faire entendre les étapes. C'est notre rendez-vous de jeudi, réalisé par Anne Fleury. Un pas de plus vers la maturité, et ce sera Oncle Vania, dont la mise en scène de Julie Brochen est reprise au théâtre de l'Aquarium. La salle Brochen, 2 générations à qui un même auteur, Tchekhov, a quelque chose à dire. Ainsi vont certains artistes, la terre tourne, les générations se succèdent et il reste des interlocuteurs privilégiés. 100 ans après sa mort, à 44 ans, le 17 janvier 1904, Tchekhov le montre avec un éclat renouvelé.
Anton Tchekhov voyage à Sakhalin, de Moscou à Khabarovsk.
Moscou, 9 mars 1890. En ce qui concerne Sakhalin, nous nous trompons tous deux, mais vous sans doute plus que moi. Je pars absolument persuadée que mon voyage ne sera d'un apport précieux ni pour la littérature, ni pour la science. Je n'ai pour cela ni assez de connaissances, ni assez de temps, ni assez de prétentions. Je veux simplement écrire 100 ou 200 pages et payer ainsi ma dette à la médecine. à l'égard de laquelle je me comporte, vous le savez, comme un vrai porc. Peut-être serais-je incapable d'écrire une ligne, et pourtant ce voyage ne perd à mes yeux rien de son parfum. En lisant, en regardant autour de moi, en écoutant, je découvrirai et apprendrai beaucoup. Je ne suis pas encore partie, mais grâce au livre qu'il m'a fallu lire, j'ai appris bien des choses que tout le monde devrait savoir, sous peine du fouet, et que j'étais assez rustre pour ignorer auparavant. De plus, j'estime que ce voyage, qui représente un effort physique et intellectuel de 6 bons mois, m'est nécessaire. Je suis ukrainien, et déjà j'ai commencé à m'abandonner à la paresse. Il faut se mater. Admettons que mon voyage ne serve à rien, qu'il soit entêtement et caprice. Réfléchissez un peu, et dites-moi ce que je perds en partant. Du temps? De l'argent? Aurais-je à subir des privations? Mon temps ne vaut rien. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Pour les privations, je ne passerai que 25 ou 30 jours tout au plus en voiture. Le reste du temps, je serai sur le pont d'un bateau ou dans une chambre et ne cesserai de vous bombarder de lettres. Même si ce voyage ne m'apporte strictement rien, se peut-il malgré tout qu'il n'y ait pas sur sa durée 2 ou 3 jours dont je ne me souvienne toute ma vie avec enthousiasme ou amertume? Voilà, cher monsieur. Tout cela n'est pas très convaincant. Ce que vous n'écrivez ne l'égare plus, n'est-ce pas? Vous me dites, par exemple, que les gens n'ont que faire de l'île de Sakhaline, qu'elle n'intéresse personne. Et c'est exact. Sakhaline ne saurait être inutile et sans intérêt que pour une société qui n'y déporterait pas des milliers d'individus et ne dépenserait pas pour elle des millions. Après l'Australie jadis et Cayenne, Sakhaline est le seul endroit où il soit possible d'étudier une colonisation formée par des criminels. Toute l'Europe s'intéresse à Sakhaline. Et nous ne nous y intéresserions pas? Sakhaline est un lieu d'intolérable souffrance comme seul l'homme peut en supporter, qu'il soit libre ou esclave. Ceux qui ont travaillé là ou dans les environs ont accompli de lourdes et terribles tâches. Ils continuent aujourd'hui encore à le faire. Je regrette de ne pas être sentimentale. Sinon, je vous dirais qu'à des lieux comme Sakhaline, nous devrions aller en pèlerinage, comme les Turcs vont à la Mecque. Les marins et les spécialistes des prisons devraient considérer Sakhaline comme les militaires Sébastopol. D'après les livres que j'ai lus et que je lis, il s'avère que nous avons laissé pourrir dans les prisons des millions d'hommes, que nous les y avons laissés pourrir en vain, sans raison, de façon barbare. Nous avons fait parcourir des dizaines de milliers de verstes dans le froid à des hommes enchaînés. Nous les avons rendus syphilitiques, nous les avons corrompus, nous avons augmenté le nombre des criminels et nous avons rejeté la faute sur les gardiens de prison au nez rouge. Aujourd'hui, toute l'Europe cultivée sait quels sont les responsables. Non pas les gardiens, mais chacun de nous. Et cela ne nous concerne pas. Cela ne nous intéresse pas. Les fameuses années 60 n'ont rien fait pour les malades et les détenus, enfreignant par là même le principal commandement de la civilisation chrétienne. De nos jours, on fait encore quelque chose pour les malades, mais rien pour les détenus. L'étude des prisons n'intéresse pas nos juristes, le moins du monde. Sakhaline n'est pas inutile, ni sans intérêt. Une seule chose qu'on puisse regretter, que ce soit moi qui parte, et non un autre plus qualifié, plus apte à éveiller l'intérêt de la société. Car moi, je ne vais y chercher que des vétilles.
Не забывайте свои вещи. Что такое? Добрый день. Мы собираемся в спальне Марианской впадины вашими деньгами. Брось денежку, здесь шелестящая, а?
Nous allons remplir le tonneau des Danaïdes avec vos belles pièces.
Девушки, мы собираем на домике для несчастных поросят. Им совсем негде жить. Бросьте денежку какую-нибудь, а? Им нечего есть и нечего пить.
Hey, les filles, здрасте, помогите. Nous avons besoin d'argent pour construire une maison aux petits cochons sans abri.
Nice.
Люди, помогите ведьме на метлу, а не дайте кошек по неночи.
Сегодня 4 октября. Пригородный поезд 662 дала поезд.
Пригородный поезд 662 станция дала поезд.
Je suis dans le hall, il y a le tableau de départ.
L'île de Sakhalin. Dans une géographie imaginaire, le nom évoque un très lointain, un bout du monde enneigé et hostile, du côté de la Sibérie et des îles Kouril. Quelque part où il y aurait beaucoup de neige et aussi pas mal de pétrole. Anton Tchekhov a 30 ans quand il décide de partir vers Sakhalin. Un voyage plutôt risqué pour un médecin qui sait sa santé fragile. 10 000 km à travers la Russie, alors que le Transsibérien n'existe pas encore. La route est considérée comme la plus sinistre du pays, empruntée seulement par quelques colons et des convois de bagnards. Mais que veut-il vraiment ? Enquêter sur le Cayenne russe de l'époque ou fuir vers un plus loin possible ? Avant de quitter la gare de Yaroslav, il fait de sa sœur Masha son héritière, s'achète un manteau de cuir, de grandes bottes et un couteau pour, dit-il, couper le saucisson et chasser le tigre. Il sera de retour à Moscou 7 mois plus tard et publiera en 1893 l'île de Sakhalin, un sévère réquisitoire contre les conditions de détention des bagnards. Tchekhov avait d'abord l'intention de publier un témoignage illustré, mais il sera déçu par les photographies qui lui parviendront. Il choisit finalement de publier son texte seul. Pascal Rabaté est dessinateur, je suis photographe. Nous pouvions peut-être tenter de réparer cela, un siècle plus tard, faire ces images qui manquaient. C'était aussi cette ligne droite un peu zigzagante à travers la Russie qui nous fascinait, sa longueur démesurée, tellement longue que l'on ne parle plus de kilomètres mais de journées, de semaines de voyage. Le temps allait fatalement se creuser, il allait se passer quelque chose. Ce carnet de voyage commence le 1er octobre 2003 dans cette même gare de Yaroslav à Moscou, quelques minutes avant le départ du Transsibérien.
In Sakhalin, when we came to Sakhalin, we traveled with
Christina Hamel. Nous avons fait le voyage jusqu'à Sakhalin en transsibérien, en compagnie d'une troupe de théâtre. Quand nous sommes arrivés sur l'île, le directeur du théâtre leur a demandé « Mais pourquoi vous avez fait tout ce voyage ? Notre théâtre a brûlé il y a 2 ans. » Et les pauvres acteurs ont dû rentrer à Moscou, 9 jours de train dans le sens inverse.
Voilà, quelqu'un qui nous a informé, c'est le quai 3 ou 4, pas encore décidé. En tout cas, il y a un amas impressionnant de bagages devant les deux quais. Des personnes qui ont des ballots énormes sur des chariots. Beaucoup de Russes, je vois assez peu d'étrangers. Une dame avec 2 tekels et des valises en cuir. Des enfants sur les chariots.
Sakhaline, dans l'imaginaire russe, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est le bout du monde, le bout du territoire?
Nadia Buntman.
Sakhaline, c'est un pays... Bon, moi, j'ai jamais été à Sakhaline. Je peux dire que c'est le côté à la fois mystérieux, parce que peu de Russes ont eu le courage, soit l'argent, d'y aller. On sait très bien, d'après le cours de géographie, au niveau aussi du collège, que c'est le climat plus doux qu'à Moscou. C'est pour ça qu'on rêve d'y aller. On sait que là, il y a la flore et la faune qui est presque, je dirais pas tropicale, mais presque. C'est-à-dire que c'est un peu le pays de cocagne pour ceux qui, peut-être, n'ont pas visité Sakhaline. Peut-être après, on voit autre chose, mais on rêve d'y aller comme Baïkal, Sakhaline. Par exemple, les îles près de Sakhaline, c'est toujours un rêve pour un Russe. Et on sait que c'est très beau, c'est d'une beauté. Parfois, on voit à la télévision, parfois des reportages, on saccage la nature, on massacre tout. Il faut voir ce qu'il en reste. Mais apparemment, en Russie, il reste quand même les recoins. C'est trop vaste pour saccager tout.
Скорый поезд 56-й Енисей Москва-Красноярск будет отправлен с третьего пути в 16:36.
Elle est tombée.
Qu'est-ce qui est tombé?
Un truc qui était sur la bouteille. Mais oui.
Non mais c'est pas grave, ça c'est.
Mais bon, ça crée
l'ambiance.
Mais oui. J'ai trouvé.
Ah, avec le cachet.
C'est comme ça.
Son petit collier.
La marque verte, ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pur écologiquement. Voilà.
Et comment une vodka peut être pure écologiquement?
Je ne sais pas.
C'est-à-dire que c'est de l'orge sans OGM.
Non, c'est pas de l'orge. Non, c'est pas de l'orge. C'est
du houblon.
Non, c'est du froment.
C'est du froment.
Du froment. La vraie vodka russe, elle est faite seulement à la base du froment.
Donc tu nous as offert une très bonne bouteille de vodka pour le transsibérien.
Oui, c'est juste pour le train, parce que faire rien sans vodka, c'est absurde.
Ah bon?
Oui, bien sûr. Elle est bonne, ouais. Quand même. Ouais.
Parce que c'est très long, c'est ça ou parce que...
Mais non, parce que vous faisiez plusieurs escales, c'est pas très long. Chaque escale, elle n'est pas assez longue. Parce qu'un train sans escale qui va de Moscou à Vladivostok, c'est 7 jours. Ça, c'est assez long. Et avec une escale à Yekaterinbourg, puis Irkoutsk, Ulan-Ude, Khabarovsk, c'est autre chose.
Ouais.
C'est mon ticket.
Compartiment 10.
La première étape, c'est jusqu'à
Stepanopoulos.
Qui va vouloir dire Ekaterinbourg.
Ah voilà, le train est entré en gare. Il est très long. Je me dirige vers le quai. Il y a beaucoup d'animation. Toujours ces chariots traînés. Moi-même, j'aurais dû en prendre un, puisque beaucoup trop de bagages et la chambre photographique est très lourde. Le train est bleu.
Мне говорить надо в микрофон, да? А, у вас 12 место. 12.
Спасибо.
Пожалуйста.
О, putain, comment on va rentrer là-dedans? On voit le... Le couloir est très étroit. J'ai du mal à passer avec tous mes bagages. Oh.
Sur le bateau, mon premier souci a été de donner libre cours à mon talent. Autrement dit, je suis allée me coucher. En me réveillant, j'ai vu le soleil. La Volga est assez belle. Des prés inondés, des monastères baignés de soleil, des églises blanches. Quelle immensité! Il n'y a pas un endroit où il ne serait agréable de s'installer pour pêcher. Sur la rive, des vaches vont et viennent, comme des surveillantes générales. Elles paissent l'herbe verte. De temps en temps, on entend la corne d'un berger. Des mouettes blanches qui ressemblent à la jeune Drishka glissent au-dessus de l'eau. Le bateau n'est pas fameux. Ce qu'il a de mieux, c'est le water closet. La lunette est si haut perchée au sommet de quatre marches qu'une personne un peu naïve dans le genre d'Ivanenka la prendrait facilement pour un trône. Le pire sur ce bateau, ce sont les repas. Voici le menu, sans changer l'orthographe. Soupe au chou vert, saucisse au chou, esturgeon frit, pudding de chat. Le chat se révéla être de la cacha. Comme j'ai gagné mon argent à la sueur de mon front, j'aurais préféré que ce fût l'inverse et que le repas fût mieux que le cabinet. D'autant plus qu'après le vin de Santorin, j'ai les intestins bouchés et vais pouvoir me passer de water jusqu'à Tomsk. Il fait assez froid. Je m'ennuie un peu. Mais enfin, c'est intéressant. La sirène du bateau retentit à tout instant. Son sifflement tient à la fois du braiement de l'âne et de la harpe éolienne. Dans 5 ou 6 heures, je serai à Nijni. Le soleil se lève. J'ai dormi divinement. Je n'ai pas touché à mon argent pour la bonne raison que j'ai souvent mal au ventre. Les remorqueurs qui tirent 4 ou 5 péniches sont très beaux. Ils font penser à un jeune intellectuel raffiné qui voudrait fuir, mais que son imposante épouse, sa belle-mère, sa belle-sœur et la grand-mère de sa femme retiendraient par les basques. Mère, réjouissez-vous. Je crois que je passerai un jour à Yekaterinbourg et verrai la famille. Peut-être que leur cœur sera ému et qu'ils me donneront 3 roubles et 1 once de thé. Les sterlets coûtent moins cher que les champignons, mais j'en aurai vite assez. Que vous dire de plus ? Il n'y a rien à raconter. Je n'ai pas touché à mon argent, exception faite de ce que j'ai dépensé pour la nourriture. Ils refusent, les gredins, de nous nourrir gratis. Je ne me sens ni gaie ni triste. J'ai l'humeur déliquescente. Je suis content de pouvoir rester sans bouger et de me taire. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas dit 5 mots. Ah non, c'est faux. J'ai bavardé avec un pop sur le pont.
Ужинать пришли. Присаживайтесь.
Картофель
жареный. Это гарниры.
Каша
гречневая.
Каша
гречневая, да. Темная.
Good?
Хорошая каша. В ней железа много. Полезная. Ну давайте.
Pascal est en train de dessiner tout le garde-manger possible et imaginable.
Ага, это свинина.
А ça, c'est la vache.
La vache.
Ah, я не могу.
Молодец.
Вот это рыба, давайте я напишу вам. Это рыба. Рыба. Это говядина. Говядина. Это... Баранина. Баранина. А это свинина. Свинина.
Вот. И кача.
А еще есть курица. Курица еще есть. Как ее нарисовать-то, господи? Ну вот так вот, пускай будет такими перьями. Ага, а, вот супа. Так вот. Суп. Да, 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 такая окорочка, такие вот.
On m'a offert partout du brouet de canard. C'est parfaitement répugnant. Un liquide trouble où nagent des petits morceaux de canard sauvage et de l'oignon cru. Les gésiers des canards sont mal vidés. De sorte que vous vous imaginez, quand vous mangez, que c'est le rectum qui a pris la place de la bouche. Une fois, j'ai demandé que l'on me prépare une soupe de viande et qu'on fasse frire des perches. On m'a servi une soupe trop salée, trouble, avec des morceaux de semelle en guise de viande et des perches pas écaillées. Ici, si on fait rôtir la viande salée, on l'utilise aussi pour la soupe au chou. Tout à l'heure, on m'a servi de la viande salée rôtie. C'était un fait. Les trois premiers jours du voyage, à cause des chaos et des secousses, j'avais mal aux clavicules, aux épaules, aux vertèbres et aux coccyx. Je ne pouvais ni m'asseoir, ni marcher, ni rester couché. Par contre, mes douleurs à la poitrine et à la tête avaient disparu. J'avais un appétit d'ogre. Quant à mes hémorroïdes, elles ne pipaient mou. À force d'être tendu et d'avoir à traîner mes valises, peut-être à la suite des excès de boissons que j'avais fait à Moscou lors de mes visites d'adieu, j'avais le matin des crachements de sang qui me plongeaient dans une sorte d'abattement et faisaient naître en moi de sombres pensées. Ils ont cessé à la fin du voyage. Maintenant, je ne tousse plus. Il y a longtemps que j'ai aussi peu toussé qu'après ces deux semaines passées au grand air. Au bout de trois jours de route, mon corps s'est habitué au chaos et j'ai commencé à ne plus m'apercevoir qu'au matin succédait le midi, puis le soir, puis la nuit. Les jours passaient aussi vite qu'au cours d'une longue maladie. On croit qu'il n'est pas encore midi et déjà les paysans vous disent « Barine, vous devriez passer la nuit ici, sinon vous pouvez vous égarer dans l'obscurité. » Et en effet, vous regardez votre montre, vous voyez qu'il est plus de 7 heures du soir. Pendant toute la route, j'ai été affamé comme un loup. Je me suis bourré de pain pour ne pas rêver de turbo, d'asperges, etc. J'ai même rêvé de ketchup sarrasin. J'ai passé des heures à rêver. À Tumen, j'ai acheté du saucisson pour la route. Mais quel saucisson ? Quand on en prend un morceau dans la bouche, c'est comme si on entrait dans l'écurie au moment même où les cochers baissent culotte. Quand on le mâche, on croirait planter ses dents dans une queue de chien badigeonnée de goudron. C'est dégoûtant. J'en ai mangé deux fois, puis j'ai jeté.
À Yekaterinbourg, j'ai reçu de Tiumen le télégramme suivant. Le premier bateau pour Tomsk partira le 18 mai. Ce qui signifiait qu'il me fallait, bon gré mal gré, filer en voiture. C'est ce que j'ai fait. J'ai quitté Tiumen le 3 mai, après avoir passé à Yekaterinbourg deux ou trois jours, que j'ai utilisés pour remettre en état ma petite personne, victime de la toux et des hémorroïdes. Des voitures de poste et des voitures privées assurent la traversée de la Sibérie. J'ai pris celle-ci, les deux se valent. On m'a fait monter, moi, pauvre pêcheur, dans une sorte de panier, et deux chevaux m'ont emporté. On est là, dans son panier, on regarde, tel un serin, le monde du bon Dieu, et l'on ne pense à rien. La plaine de Sibérie commence, je crois, à la sortie même d'Yekaterinbourg, et se termine Dieu sait où. Il fait froid à voyager ainsi. J'ai ma veste fourrée. Le corps, ça peut encore aller, mais j'ai les jambes gelées. Je les enveloppe dans mon manteau de cuir, mais rien n'y fait. Je porte deux pantalons. Et voilà, on va, on va. Les bornes kilométriques, les mares, les petits bois de bouleau défilent. Nous venons de dépasser des colons, puis un groupe de déportés. Nous avons croisé des vagabonds avec des marmites sur le dos. Ces messieurs se promènent sans encombre sur la grande route sibérienne. Tantôt, ils égorgent une misérable vieille pour lui prendre sa jupe et s'en faire des chaussettes. Tantôt, ils arrachent l'inscription en fer d'une bande kilométrique. Cela peut servir. Tantôt, ils fracassent le crâne d'un mendiant croisé en chemin ou ils pochent les yeux d'un des leurs. Mais ils ne s'en prennent pas aux voyageurs. En général, la route ici est tout à fait sûre en ce qui concerne le brigandage.
Dimanche 5 octobre. Voilà un peu plus d'un jour maintenant qu'on a quitté Ekaterinbourg. Le train s'enfonce peu à peu dans la Sibérie. On ne peut pas dire que le paysage ait vraiment changé, puisque devant la fenêtre, on voit défiler depuis maintenant 3000 km, c'est-à-dire depuis la sortie de Moscou, des bouleaux, des forêts de bouleaux, des bosquets, des bouleaux, toujours des bouleaux. On est en automne et donc ils sont couverts de feuilles jaunes. Tout ça sur un fond de ciel bleu éclatant, c'est toujours très beau. Et tout à l'heure, il y a un colporteur qui est passé de coupé en coupé, comme on dit ici, c'est-à-dire de compartiment en compartiment, avec des peintures sur tranches de tronc, que j'imagine être des troncs de bouleaux. Et ces peintures représentaient des bouleaux au tronc blanc, avec des feuilles jaunes sur fond de ciel bleu éclatant. Tout le motif était décliné à l'infini. Je ne sais pas s'il a eu beaucoup de succès dans les autres compartiments. En tout cas, nous, on ne lui a pas fait un franc succès. Et donc, il est reparti avec autant de tranches de tronc de bouleau qu'il n'était arrivé. Enfin, un autre élément qui n'a pas beaucoup bougé aussi, c'est le track, ce chemin plusieurs fois centenaire que l'on suit de temps en temps, que la ligne du Transsibérien suit. C'est ce track qu'a emprunté Tchekhov et dont il parle beaucoup, aussi bien dans ses lettres à sa sœur qu'à son ami Souvorine. Tchekhov a utilisé plusieurs moyens pour se rendre à Sakhalin. Bon, d'abord la navigation par les fleuves, par la Volga, par le fleuve Amour ensuite. Aussi quelques tronçons de trains qui existaient entre Tiumen et Katerinbourg, par exemple. Mais il a surtout suivi le track, qui était un chemin qui très, très mauvaise réputation, qui était dans un état pitoyable, puisqu'il y avait peu de gens qui pouvaient l'entretenir sur sa longueur immense. Et donc il était le plus souvent défoncé du fait des écarts de température énormes entre cet été sibérien qui est très chaud et cet hiver où les températures peuvent atteindre les moins 50 degrés. Ce qui fait que les petites roues deviennent vite des ornières et des fossés.
La grande route de Sibérie est la plus grande et apparemment la plus affreuse route du monde. Seul un virtuose particulièrement habile pourrait mettre un équipage d'aplomb sur pareil bas-côté. Ordinairement, la voiture adopte une position qui, tant que vous n'y êtes pas accoutumé, vous fait crier « Cocher, nous sommes en train de verser !» Tantôt deux roues de droite s'enfoncent dans une ornière profonde, tandis que celles de gauche sont au sommet des montagnes. Tantôt deux roues s'embourbent, tandis qu'une troisième est sur un sommet et que la quatrième tourne à vide. Le break adopte un millier de positions pendant que vous tenez soit la tête, soit les flancs, faisant force courbette dans tous les sens et vous mordant la langue, et que vos bagages, vos valises et vos caisses se mutinent, s'entassent les uns sur les autres et sur vous-même. En regardant le cocher, vous vous demandez comment cet acrobate peut tenir sur son siège. Les chevaux fument, les limons se déglinguent, les avaloirs et les arceaux se déplacent. « Hue, ma belle !» crie le cocher en abattant son fouet de toutes ses forces. « Hue, mon joli pourriture de canasson !» Les chevaux traînent la voiture sur une dizaine de pas puis s'arrêtent. On peut toujours les fouetter, les appeler de tous les noms, ils ne voudront plus repartir. Rien à faire. Nous nous dirigeons de nouveau vers le fossé et quittons le remblai. Nous cherchons de nouveau une déviation. Puis de nouveau, c'est la même perplexité et nous tournons vers le remblai et ainsi de suite à l'infini. La route est dure, dure, mais le devient encore plus quand on se dit que cette bande de terre affreuse et cabossée, frappée de variole, est presque la seule artère unissant l'Asie à l'Europe. Et c'est par cette artère, prétend-on, que la civilisation afflue en Sibérie. Ah oui, on parle beaucoup. Mais si nous étions entendus par les cochers, les postiers, ou bien ces paysans-ci, trempés, crottés, embourbés jusqu'aux genoux devant leurs voitures chargées de thé destinées à l'Europe, que penseraient-ils de l'Europe et de sa sincérité ?
En fait, en regardant par la fenêtre, j'ai le choix entre deux clichés. Celui d'une Russie éternelle, cette Russie des izbas penchés, et ce tronçon du track que l'on croise de temps en temps qui trace comme une ligne de mémoire dans le paysage. Il y a cette Russie éternelle, et puis il y aurait un autre cliché, celui d'une Russie moderne, vision assez catastrophiste, la Russie de tous les dangers, toujours au bord de l'implosion ou de l'explosion, on ne sait jamais vraiment. Comme ces deux clichés doivent être aussi éloignés de la réalité l'un que l'autre, je sais pas trop, je suis encore tâtonnant. En fait, c'est la chambre photographique
qui résout mon problème, c'est elle qui choisit un peu ce que je devais photographier, puisque le temps de charger un film, d'enlever le petit volet de protection, ensuite de charger l'obturateur, de choisir un diaphragme et une vitesse, avant que toutes ces opérations soient faites, l'image entrevue, la photographie pressentie est déjà à un bon kilomètre derrière moi. Et donc la plupart du temps, je me retrouve à lever l'appareil sur des boulots. Sur les boulots. Mais pour faire croire à Pascal que je travaille quand même, je prends la pause, je déclenche. Lui remplit des cahiers et des cahiers de croquis et moi j'avance pas beaucoup. Alors je prends les boulots en photographie. Je crois que cette passion nouvelle pour les boulots lui pose question, ou en tout cas je suis pas sûr qu'il y croit beaucoup. Et tout à l'heure il m'a demandé, mais tu en as pas marre toi des boulots? Nous allons descendre à quai pour manger quelque chose. Voilà. Un morceau de poulet avec des patates. Du poisson fumé, Sprite, Coca, Fanta, des saucisses aussi, du lait, des sortes de petits cornets de glace.
Послушать можно?
Прикольно.
А мне три пломбира. Я не понимаю.
Я еще хочу.
Для тебя это впервые. Читая между строк, мы не одни в этой квартире. Узнала по глазам и обо всем я забывала. Ты просто не сказал, что для тебя этого мало. Солнечный свет не светит, пламя свечи не греет ради тебя. Готова я полюбить другого, если ты попросишь меня.
On est lundi soir, un karaoké à Irkoutsk. Il n'y a plus un seul client dans le bar. Et c'est les serveuses qui commencent à chanter.
Promenade à Irkoutsk en compagnie d'Alexandre Sidorov, journaliste.
En taxi, à la recherche du tronçon du tract qu'empruntait Tchekhov donc à travers toute la Sibérie. Il en reste un dans la ville, un petit tronçon. Donc Alexandre regarde sur le plan pour le retrouver. Alors le tract, ce chemin transsibérien qui a précédé le chemin de fer et qui traversait donc toute la Sibérie à partir de Krasnoïark jusqu'à Vladivostok, le tract traversait Irkoutsk aussi, et c'est pour ça que Tchekhov s'y est arrêté.
Par contre, il n'y avait pas de pont à l'époque, en 1890, et donc il fallait emprunter des barques pour traverser l'Angara, la rivière qui traverse Irkoutsk. Et nous sommes devant l'ancien débarcadère, maintenant à l'abandon. Il est entre le pont pour Lénine et puis une zone industrielle. Il y a quelques pêcheurs sur la berge de la rivière, mais l'ensemble fait plutôt terrain vague. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que devant nous, il y a la rivière qui coule, l'Angara qui coule, mais derrière nous, il y a encore un tronçon du tract. Alors, comment faisaient les gens pour traverser cette rivière ?
Pour traverser l'Angara, les gens, à l'époque, doivent prendre le bateau ou prendre une barque spéciale pour aller à l'autre côté de l'Angara. Parce que le tract sibérien, il est continué à partir d'Irkoutsk sur le lac Baïkal. Et ce chemin était de l'autre côté de l'Angara. D'Irkoutsk jusqu'à lac Baïkal, le tract s'appelait Baïkalski tract.
Alors le pont qui est à une cinquantaine de mètres de nous a été construit pour Lénine, mais il n'a pas le nom officiel de Lénine.
Monsieur Lénine, si on peut le dire, a prononcé quelque part une phrase qu'il n'aime pas les monuments à son honneur. Et le monument meilleur pour lui, ce serait quelque chose d'utile. L'usine, fabrique, je ne sais pas. Voilà. Et c'est pourquoi ce pont-là, on nomme parfois, pas officiellement, mais entre les gens, comme le monument pour Lénine.
Elena Pavel, historienne.
Il y a une période assez méconnue de Sakhaline, puisqu'on connaît très bien les bagnes tsaristes grâce à Tchekhov, et on connaît les bagnes soviétiques à partir de 1948, puisque l'île se prête quand même à la détention des détenus politiques, des Japonais en particulier. Donc Sakhaline avait deux ou trois goulags, un au nord de l'île et un au sud de l'île, tout bêtement, avec des détenus japonais. On est en 1948, il y avait pas mal de Japonais quand même sur le territoire soviétique, suite à la Deuxième Guerre mondiale, suite au brassage de population. Et en 1948, Staline est encore vivant et on fait toujours la chasse à l'ennemi extérieur. Et c'est très pratique d'arrêter un Japonais uniquement parce qu'il est Japonais.
Mmh. C'est-à-dire qu'avant avant les accords de Yalta, je crois, le Sakhaline était encore divisée entre une partie japonaise et une partie russe.
Oui, et après, elle devient russe, entièrement russe, et donc il reste de la population japonaise sur un sol qui est devenu soviétique. Mmh. Et donc en 1948, une partie de cette population a dû être mise en camp, et puis on a forcément dû leur trouver des circonstances aggravantes, certainement.
D'accord, mais alors il y a une période qui est mal connue des historiens, c'est celle qui sépare 1917 de 1948. Alors.
Oui, quand j'ai rencontré Laurent Galmou, donc il m'a parlé de votre projet, et je me suis renseignée un petit peu sur la question, j'ai cherché dans mes livres d'histoire les écrits des soviétologues, et effectivement, j'ai pas trouvé grand-chose sur Sakhaline, il y a une sorte de trou noir. Et on se demande qui a pu être déporté à Sakhaline entre 17 et 48, puisque moi je retrouve la trace à partir de 48. Et effectivement, ce ne sont pas des citoyens soviétiques, puisque les citoyens soviétiques arrivaient à la baie de Nagaïev, donc qui est en face de Sakhaline, par train, donc plus d'un mois de voyage à partir de Moscou, parce que ce n'était pas la vitesse du transsibérien. Et donc, à partir de la baie de Nagaïev, ils prenaient un bateau et ils étaient envoyés dans le Dalnyi Vostok, le Dalstroy, qui sont les constructions du Grand Orient, où il y a des mines d'or, et donc on envoyait les travailleurs mourir là-bas, voilà, à partir de cette baie de Nagaïev. Mais on ne les envoyait pas à Sakhaline, pour une raison très bête, c'est qu'ils ne sont pas rentables à Sakhaline. Sakhaline n'apporte rien. Staline avait besoin d'or, il avait besoin d'or pour payer les dettes extérieures, il avait besoin d'or pour payer les armes entre 42 et 45. Et donc, les détenus, comme on dit en russe, les zèques, dans les mines d'or de Sibérie orientale, et pas à Sakhaline.
Donc Sakhaline n'intéresse personne à cette période-là?
Non. Non. Sauf d'un point de vue peut-être géostratégique, c'est une zone frontière, et comme toutes les zones frontières, elle est fermée.
C'est-à-dire qu'il faut occuper le terrain aussi, c'est-à-dire pour que les Japonais ne puissent pas trop revendiquer ce territoire, il faut peut-être aussi un peu l'utiliser.
Il faut l'occuper, mais d'une part avec des soviétiques et pas avec des gens d'ethnie étrangère.
Et alors, qu'est-ce qu'il en est des populations indigènes pendant toute cette période, les Aïnous, les Gilyak
C'est curieusement une population qui survit bien à la soviétisation, contrairement à celle d'Asie centrale. Puisque celles d'Asie centrale ne sont pas nomades, elles sont dans des pays. Donc on a soviétisé les élites pour soviétiser le territoire. Et par contre, ces petites ethnies qui sont plutôt nomades ont très bien survécu parce qu'elles n'ont pas été dénombrées, elles n'ont pas été poursuivies, elles ne représentaient pas de danger puisqu'elles ne revendiquaient pas un territoire et Staline voulait marquer son territoire. Donc elles ont plutôt bien survécu. En règle générale. Et c'est maintenant qu'on trouve les Inuits, par exemple, vers Vorkuta, qu'on essaye de soviétiser de nos jours. Mais on envoie juste les enfants à l'école, ils apprennent le russe, mais ils partent pour les grands voyages avec leurs parents. Ils restent assez nomades. Dostoïevski a été repris par un écrivain soviétique donc, qui a fait 20 ans de camp en Varlam Chalamov, qui a fait 17 ans de camp à la Kolyma, donc dans le nord-est de la Sibérie. Et pour la première fois, on a un écrivain soviétique qui démonte le mythe du gentil droit commun, dont Tchekhov parle aussi. Et c'est pour une fois un écrivain soviétique qui inverse la grille de lecture qu'on connaît, c'est-à-dire le droit commun ami du peuple, qu'on peut rééduquer, et le politique ennemi du peuple à éliminer. Puisque les droits communs pour un homme politique qui, à l'époque, est plutôt cultivé, qui a fait des études, qui est rentré au Soviet, va se retrouver face à des hommes qui ont beau avoir des vers de Yessénine tatoués sur la poitrine, n'hésitent pas à violer la première femme qui passe et à étrangler le premier politique quand ils ont envie de s'amuser un petit peu.
Gare d'Irkoutsk, je m'allongeais sous la lumière d'une lampe électrique, vive et aveuglante.
Varlam Chalamov, le train.
C'est que j'avais tout mon argent dans ma ceinture. Une ceinture de toile qu'on m'avait fabriquée à l'atelier 2 ans auparavant et qui allait enfin me rendre le service prévu. Un milicien faisait les 100 pas dans la gare, se déplaçait avec précaution parmi les jambes des dormeurs, se frayait un chemin au milieu de leur corps sale, puant et en haillons. Mieux encore, il y avait une patrouille militaire avec des brassards rouges et des mitraillettes. Certes, le milicien ne pouvait pas venir à bout de la racaille, et on avait sans doute pris ces mesures bien avant mon arrivée à la gare. Je n'avais pas peur qu'on me vole mon argent. Je ne craignais plus rien depuis longtemps. Simplement, tout est plus facile quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. La lumière me tombait droit dans les yeux. Mais ça m'était déjà arrivé des milliers de fois, et j'avais appris à dormir ainsi. Je relevais le col de mon caban, qu'on appelait manteau court dans les documents officiels, fourrais mes mains dans mes manches le plus haut possible défie légèrement mes bottes de feutre de manière à ne plus avoir les orteils comprimés. Et je m'endormis. Je ne craignais pas les courants d'air. Tout était comme à l'accoutumée. Les sifflets des locomotives, les wagons qui roulaient, la gare, le milicien, le marché près de la gare. Comme si je venais simplement de faire un rêve qui aurait duré de longues années et que je me réveillais à peine. J'en fus effrayé. Je sentis une sueur glaciale me monter au front. Je fus épouvanté par cette terrible force humaine, le désir et la capacité d'oubli. Je me rendis compte que j'étais prêt à tout oublier, à rayer 20 années de ma vie, et quelles années. Et en le comprenant, je remportais une victoire sur moi-même. Je savais que je ne laisserais jamais ma mémoire effacer tout ce que j'avais connu. Je me calmais et m'endormis. Je me réveillais, retournais mes chaussettes russes du côté sec, me lavais avec de la neige, des gouttelettes noires volèrent de tous côtés, et m'en allais en ville. C'était ma première véritable ville depuis 18 ans. Ici, à Irkoutsk, il y avait de grandes maisons, des habitants affairés et des magasins. J'y achetais du linge de corps en tricot. Je n'en avais pas porté depuis 18 ans. J'éprouvais un plaisir indicible à faire la queue, à payer, à tendre un billet. Du combien ? J'avais oublié ma taille. La plus grande taille. La vendeuse secoua la tête d'un air désapprobateur. Du 55 ? Oui, oui. Et elle m'empaqueta du linge que je n'ai jamais porté car je faisais du 51. Ce n'est qu'à Moscou que je connus ma taille exacte. Toutes les vendeuses avaient une robe bleu foncé identique. J'achetais un blaireau et un canif. Toutes ces merveilleuses choses coûtaient un prix fabuleusement dérisoire. Dans le Nord, tout était artisanal, les blaireaux comme les canifs. J'entrais dans une librairie. Au rayon des livres anciens, on vendait l'histoire russe de Soloviov. 850 roubles, la collection complète. Non, je n'allais pas acheter de livres avant d'être à Moscou. Mais avoir un livre entre les mains, se tenir près du comptoir d'une librairie, c'était comme un bortsch à la viande, comme un verre d'eau fraîche.
Mercredi 8 octobre, premier rhume, première tempête de neige aussi hier sur Irkoutsk, alors qu'on rentrait d'une soirée bien arrosée. Et maintenant, ce matin, on se réveille sur un paysage rempli de neige. Une ville blanche. Irkoutsk, c'est une très belle ville. Les gens sont très accueillants. J'ai pu travailler beaucoup hier. J'ai croisé 2-3 jeunes garçons entre 18 et 20 ans en bas d'une barre d'immeuble. Et j'ai installé la chambre photographique puisqu'ils étaient d'accord pour que je les prenne en photo. Et pendant toutes mes préparations, je me suis rendu compte qu'on avait profité pour rouler une cigarette d'hashish. Et ils l'ont allumé à l'exact moment où j'ai déclenché. Ça n'avait pas l'air de les gêner beaucoup. Fumait en toute décontraction devant les gens qui passaient. On dit que c'était du hashish qui venait d'Afghanistan et qu'il était très bon, évidemment. Donc ce matin, on s'est réveillé avec une ville sous la neige. On a l'impression vraiment de rentrer dans notre voyage maintenant sibérien grâce à cette neige. Et on a loué une petite voiture pour aller jusqu'au lac Baïkal. Il y a à peu près 100 km qui séparent Irkoutsk de Lake Baïkal. Et nous partons avec une guide russe, Anya, qui parle très bien français. Alors on vient de croiser un petit totem en bois. Et qu'est-ce que c'est alors exactement, Anya ?
On peut dire que c'est le centre des chamans. Ça c'est récent, mais c'est construit pour les touristes plutôt. Et on peut faire les vœux là-bas. Et il faut boire de la vodka. Cette tradition s'appelle Burhanit. Et ce mot provient du dieu des chamans Burhan. C'est le dieu le plus important de tous les esprits, de tous les esprits mauvais et bons esprits.
Ah, et le chamanisme est encore très présent autour du lac Baïkal, alors
Le chamanisme est représenté sur le lac Baïkal. C'est autour du lac. Dans tous les villages buryats, il y a des chamans et des bouddhistes. Mais sur l'île d'Olkhon, il y a plutôt des chamans et des gens qui préfèrent cette religion que le bouddhisme. Les Boryas, c'est le peuple qui provient de deux peuples, en fait. C'est le peuple, d'abord, c'était les Turcs qui peuplaient le territoire autour du Baïkal, mais après, ce sont des Mongols qui sont venus autour du lac, et c'est le mélange de deux peuples, des Turcs et des Mongols.
D'accord. Et alors, ce petit centre chamanique pour touristes, finalement, ça sert à vendre de la vodka.
pas seulement, mais il y a des Boryates qui croient vraiment à ça, que ça porte du bonheur ou ça ne porte pas du bonheur.
Ça ne porte pas du bonheur de boire de la vodka.
Et ça porte aussi du bonheur de boire de la vodka, mais aussi ils boivent de la vodka pour que la route soit bonne. Mais la vodka, ça porte du bonheur quand même.
Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce que c'est que le chamanisme?
C'est la religion qui était interdite dans l'époque soviétique parce que je sais pas. Et le chamanisme, j'ai oublié le mot. Les gens, ils prient des dieux qui existent dans la nature, ils s'adressent à la nature, et il n'y a pas en fait de temple chez des chamans, des chamanistes, parce qu'il y a des temples naturels, je dirais. Par exemple, sur l'île d'Alcon, il y a le rocher qui s'appelle Chamanka. Maintenant, ça s'appelle le Cap Burhan. Et c'est le cap où il y a des gens qui viennent et qui prient les dieux. C'est-à-dire, il n'y a pas de temple, je répète, mais c'est le temple qui est créé par la nature. C'est le rocher.
Et par exemple, les arbres aussi ont une importance particulière.
Oui, les arbres, les herbes aussi. Les arbres, par exemple, melèze, est aussi très sacré pour les Boryates. Et le thym. Le thym qui s'appelle Tchibrets.
Les Boryates sont plutôt des pasteurs que des pêcheurs, ou les deux?
Les deux, oui. Les pêcheurs, plutôt au bord du Lille, mais dans les villages, ce sont plutôt des gens qui s'occupent de l'élevage.
Et là, on se dirige vers une île.
Pour nous, le Baïkal, c'est le cœur de toute la Sibérie, mais l'île d'Olkhon, c'est le cœur du Baïkal. Et on dit qu'il y a beaucoup d'énergie positive et négative sur l'île, parce que c'est vraiment le centre du chamanisme. Et à Yelansi, dans le village qui se trouve non loin de Marais, c'est le point le plus proche de l'île, il y a un chaman qui s'appelle Valentin. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de chamans en ce temps-là, parce que, comme j'ai déjà dit, cette religion était interdite dans l'époque soviétique. Mais maintenant, c'est la renaissance, je dirais, de toutes les religions, surtout du bouddhisme dans notre région et de chamanisme aussi.
Le jeudi matin, je vais me promener au bord du Baïkal. Qu'est-ce que je vois? La cheminée d'un des deux petits bateaux qui fume. Je demande où va ce bateau. On me dit « de l'autre côté de la mer, à Kliyoevo ». C'est un marchand qui l'a loué pour faire passer son convoi sur l'autre rive. Nous fîmes nos bagages et gagnâmes d'un pas allègre le bateau où nous allâmes droit au buffet. Pour l'amour de Dieu, de la soupe. Le petit buffet était minable, conçu sur le principe d'un water closet exigu, mais le cuisinier, Grégoire Ivanovitch, un ancien domestique de Voroneï, se révéla à la hauteur de sa charge. Il nous régala d'une cuisine excellente. Le temps était doux et ensoleillé. L'eau du Baïkal est d'un bleu turquoise, plus transparente que celle de la mer Noire. On dit qu'aux endroits profonds, on voit le fond à une verste. Moi-même, j'ai d'ailleurs vu des profondeurs qui m'ont fait frissonner, avec des rochers et des montagnes noyées dans la turquoise. Cette promenade sur le Baïkal s'est révélée merveilleuse, et jamais de ma vie je ne l'oublierai.
On arrive dans un village où une seule femme vit maintenant. Il y avait 200 habitants avant, un goulag et puis une petite annexe de la conserverie. Il y a des vaches et puis surtout beaucoup de chiens qu'elle repousse pour qu'ils nous laissent tranquilles.
Это французы,
которые... И тут немного долго говорить.
Не, никто не долго.
Недолго.
А?
Недолго.
Нам можно и тут поговорить.
Давайте.
А в дом зайдем?
Не знаю, как вам удобно.
Ну ладно, не замерзну.
Нет, я не замерзну.
Ну и спрашивайте, что надо.
Аня будет просто
давать,
она будет переводить.
Ну, видите, тут у меня кухня, все.
Ничего, все нормально, все хорошо. Вы можете садиться, и мы тоже сядем, ребята.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Может, на соля? Сова?
Садитесь.
Спасибо.
Attends, je vais faire un carrage serré, puis c'est...
Мы бы хотели, чтобы вы представились, ваше имя, сколько вам лет.
Мне, у меня Катерина Ивановна, Корнопольцева Катерина Ивановна, 72 года.
Je m'appelle Корнопольцева Валентина Ивановна.
Катерина.
Пардон.
Екатерина.
Екатерина Ивановна. Et j'ai 62 ans.
Я всю жизнь живу тут на Ольхоне.
Je vis sur l'île d'Olcon toute ma vie.
15 лет рыбачила. Потом так, это дети у меня есть, 3 сына есть, в Иркутске живут.
J'ai pêché pendant 15 ans et j'ai 3 fils qui vivent maintenant à Иркутск. А вы работали рыбаком?
Рыбаком работал. Там тут у нас здесь холодильник был. Холодильник его работал. Там замораживали рыбу, там принимали. Первым рабочим, потом было 15 лет, мастером рыбу принимала. И на пенсию пошла. После пенсии еще работала 14 лет.
D'abord, j'ai travaillé comme pêcheur. Après, j'ai travaillé dans une usine, dans un atelier de l'usine qui était là. Et c'était un congélateur. Et moi, j'ai travaillé là-bas.
Est-ce qu'elle a connu la période où la prison était encore sur, dans le village?
Vous savez la période où il y a eu тюрьма, которая была здесь?
А здесь, она не здесь была, она вот тут, вон там один дом стоит, сейчас мимо проезжать будет, вот ихний дом остался, но тут был тюрьма, но так я мимо раньше рыбачила, проходила еще в детстве.
Но были здесь?
Были, тут женщины были, и мужчины были, лагерь был женский и мужской.
Oui, j'ai vu les prisonniers, il y avait des femmes, il y avait des hommes là.
Ça a cessé à quelle période à peu près?
Когда
закончился этот период? Закончилось, это значит, в 49-м году, в 50-х годах, так вот. Ее вот здесь увезли, и в рыбзавод передали.
Dans les années 50. Et après, l'usine, après, l'atelier de l'usine était fermé, après ça.
Et elle savait pourquoi ils étaient internés, ces prisonniers, pour des raisons politiques ou du droit commun?
А вы не знаете, почему эти заключенные были за что задержаны? За какие-то политические? Или какие-то...
Да, политические было, за воровство было, за налоги были. Такие вот сидели. Ну, вот налог вот не выплатил, мясо не сдал раньше, это все и такое. Вот за это, за кражу сидели. Раньше за котелок картошек садили, 2 года давали.
Il y avait des prisonniers différents, il y avait des prisonniers politiques, il y avait des prisonniers qui étaient arrêtés parce qu'ils ont volé quelque chose, par exemple un petit peu de pommes de terre ou ils n'ont pas payé des impôts.
Et ce village était assez important à l'époque.
После этой заключенных они это всех увезли, потом был рыбзавод. Тут много было домов, тут вносили, наверное... 20 или 30 домов тут было, тут и школа была. А потом все что-то, тут был концерный, после людей лагерь был, там концерный завод был у нас. Потом концерный завод сгорел, и так все разрушилось, и со Слюдянки ездили рабочие, тут концерты всякие делали. Тут только омуль в жилье, омуль был, и в томате омуль, и копченый, всякий тут был. Там как сгорело, и ничего не стало. Ну и люди стали... Только тут остался один холодильник.
Il y avait un grand village autrefois, il y avait une trentaine de maisons, mais après peu à peu quand l'usine était fermée, il y avait une grande conserverie là, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là. Après l'école était fermée et les gens ont commencé à déménager, vendre leurs maisons et voilà, c'est peu à peu a devenu très désertique cet endroit. Et moi je vis là depuis beaucoup d'années et je veux rester là et mourir. Dans cet endroit.
С мужиками сидели. Давай брызгать, давай, говорит, рюмка, наверное, водкой пахнет от меня.
Peut-être que ça sent de la vodka parce que moi j'ai bu un petit peu de vodka avec des gens qui sont venus là.
Mais il faut lui dire qu'à la radio, on ne sent pas la vodka.
По радио не чувствует запах водки.
Подскажите, пожалуйста, за Свердловска на Нижний Тагил. 14:39. Экспресс нет?
14:39, Москва экспресс.
А сколько билеты стоят?
62 рубля.
Спасибо. А можно купить?
Левое крыло, пожалуйста, можно.
Добрый день, девушка. Вы не подскажете, где сейчас международная касса? Может быть, вы мне информацию...
Международная нет, у меня справки не дают машина. Это на третий этаж.
На третий этаж там все перекрыто, я второй день попасть не могу.
Как перекрыто?
Ну, там же ремонтируют, там леса стоят, я как туда пройду?
А пройти нужно вот здесь, видите, сейчас на улице?
Там перекрыто, там леса стоят на лестницах. То есть как там пройдешь?
Сам гише до ренсейнма.
По винтовой лестнице, винтовая лестница?
По винтовой, да.
Через второй этаж тогда получается?
А через второй как?
Вот сейчас подниметесь вот здесь, вот на второй этаж, и по залам пройдете, через второй этаж по залам.
Скажите, пожалуйста, электричка с Кургана сколько прибывает?
10:52
Москва. Скажите, пожалуйста, есть какой-нибудь поезд за Тюмени?
94-й, вернее, в 11:53 Москвы
ближайший. 29-й. Спасибо. Скажите, на каком доехать сейчас можно?
Я ведь вам сказала, что...
Садимся, опаздываем.
Il faut vite monter, le train va partir.
Отстала. Вагон пошел, я оставила там. Орехи покупаю. Смотрю, он пошел.
Après 5 ou 6 jours, il s'est mis à pleuvoir et à souffler un vent violent. Il a plu jour et nuit. Mon manteau de cuir, qui m'a déjà sauvé de la pluie et du vent, est entré en jeu. Merveilleux manteau. Tout s'est transformé en bourbier. Les cochers étaient peu disposés à conduire la nuit. Mais le plus atroce, et que je n'oublierai jamais de ma vie, ce fut la traversée des rivières. On atteint une rivière la nuit. On se met à crier d'une même voix avec le cocher. La pluie, le vent, des glaçons sur la rivière... On entend le clapotis de l'eau, à noter une joie, le cri d'un butor. Enfin, au bout d'une heure, apparaît dans l'obscurité un énorme bac en forme de péniche, des rames immenses rappelant les pinces des écrevisses. Les passeurs sont des gredins, des déportés pour la plupart, envoyés ici après que la société les a condamnés pour dépravation. Ils sont d'une grossièreté insupportable, crient, vous demandent des pourboires. Vous faites traverser la rivière lentement, lentement, avec une affreuse lenteur. Le bac se traîne. De nouveau ce sentiment de solitude. On a l'impression que le butor fait exprès de crier, comme s'il voulait vous dire « Ne crains rien, mon bonhomme, je suis là. » Dans la soirée, le facteur, un homme âgé que la vie avait visiblement éprouvé, qui n'osait s'asseoir en ma présence, se prépara à gagner la tome. Moi aussi. Nous voilà partis. À peine avions-nous atteint la rivière qu'une barque apparut, si longue que jamais auparavant je n'en avais imaginé de pareil. Tandis qu'on chargeait le courrier dans la barque, je fus le témoin d'un phénomène étrange. Le tonnerre grondait alors qu'il neigeait et que soufflait un vent glacial. On finit de charger et nous partîmes. Cher Micha, ne m'en veuille pas, mais comme je me réjouis de ne pas t'avoir emmené, comme j'ai eu raison de n'emmener personne. D'abord, notre barque glissa sur un pré, le long d'un bouquet de saules. Comme cela arrive souvent avant l'orage ou pendant l'orage,
Un vent violent brusquement se leva sur l'eau et forma des vagues. Le rameur, qui était assis près du gouvernail, conseilla d'attendre à l'abri des saules, que le mauvais temps soit passé. On lui répondit que si le mauvais temps devait encore empirer, nous resterions dans les saules jusqu'à la nuit pour couler de toute manière. Nous passâmes aux voies et décidâmes de continuer. Nous avancions en silence, concentrés. Je revois la silhouette du facteur qui en avait vu d'autres. Je revois le petit soldat qui était brusquement devenu aussi cramoisi que du jus de cerise. Je pensais, si la barque se retourne, je me débarrasse de ma veste et de mon manteau de cuir, puis de ma valinki, etc. Mais la rive approchait, approchait. Je me sentais de plus en plus léger. Mon cœur se serrait de joie. Je poussais, je sais pourquoi, un profond soupir, comme si je me détendais tout à coup et sautais sur la rive mouillée et glissante. Dieu soit loué.
Друга не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну, а случится, что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
Mardi 14 octobre, je suis dans le wagon restaurant, dans le Transsibérien. On se dirige vers Khabarovsk. On y arrivera sans doute demain matin. Voilà maintenant 6000 km que nous voyageons en train. Je crois que Pascal comme moi sommes un peu cette fois abrutis par ces kilomètres, ce paysage qui défile par la fenêtre. Le paysage est maintenant totalement enneigé, et chaque fois qu'on s'arrête à une station, la température est de plus en plus basse. C'est d'ailleurs à ces arrêts qu'on rencontre le plus souvent les autres passagers. Quand on fume une cigarette, on en offre une, on achète de l'eau, de quoi boire, de quoi manger aux petites épiceries du quai. Alors on discute. Ah, vous êtes français, D'Artagnan, Alexandre Dumas, le chevalier Bayard, Zinedine Zidane, Cantona. Yeah. Puis il y a une voix qui retentit dans les haut-parleurs, qui vous demande de remonter dans les voitures. J'essaye de lire La Steppe de Tchekhov. C'est un livre qui est lié à un très vieux souvenir. Mais j'ai un peu de mal. Mes premiers souvenirs de lecture, c'est évidemment la bibliothèque rose, et puis ensuite verte. Et puis ensuite, il y avait la collection marron. Ça correspondait un peu au roman policier de la collection du masque. Et j'avais le vague sentiment que ça devait être comme les ceintures de judo, qui me restaient encore à découvrir la bibliothèque noire. Celle de mon père, bien sûr. Il avait son bureau dans une pièce avec sa bibliothèque. Et j'avais pas tellement le droit de m'attarder dans cette pièce. Et en plus, elle était très sombre. Donc,
pouvait tout à fait correspondre à l'idée que je me faisais de la bibliothèque pour adultes. Un grand meuble austère, des rayonnages remplis de livres. Et la première fois qu'il m'a prêté un livre de sa bibliothèque, c'était, je devais avoir 13 ou 14 ans, et c'était La Steppe de Tchekhov. Sans doute qu'il avait imaginé que ce voyage initiatique de Yegor à travers la steppe russe était une bonne introduction pour la littérature dite sérieuse. Mais la première chose qui me surprenait vraiment, c'était cette couverture. D'abord parce qu'elle était totalement blanche, recto verso. Et il y avait tout en bas écrit « Les éditions du Dauphin ». Et au centre, un petit dessin, un poisson, mais un poisson plutôt fantastique qui ne pouvait pas correspondre à ce dauphin. Sa tête était démesurée par rapport au reste du corps. J'ai donc pensé, moi, que c'était un récit où il serait question de mer, de poisson ou de rencontres fantastiques. C'est seulement beaucoup plus tard que j'ai compris que ce poisson était bien un dauphin, mais dans la représentation qu'en faisaient les Grecs, représentation très peu figurative qu'on trouve sur certains vases, et que c'était tout simplement le symbole de la maison d'édition. Je trouvais qu'il était bien long à mettre tout ça en place et que finalement il ne se passait pas grand chose, ou en tout cas les choses qui s'y passaient me dépassaient un peu et j'avais un peu de mal à saisir l'intérêt de tout ça. Et bien sûr, je n'avais pas envie d'avouer à mon père que je ne saisissais pas tout l'intérêt du livre. Je ne vais pas avouer parce que c'était risqué de perdre ce droit que j'avais mis tellement de temps à acquérir, ce droit d'avoir des livres de sa bibliothèque entre les mains. J'avais peur qu'il refuse à l'avenir de m'en prêter. Et donc, en lui rendant le livre, j'ai prétendu que je l'avais trouvé très intéressant, passionnant, et que, bien sûr, il fallait qu'il m'en prête d'autres. Pendant encore un ou deux ans, j'ai lu beaucoup de livres auxquels je ne comprenais rien avant peu à peu d'avoir le droit de choisir moi-même les livres dans cette bibliothèque. Et ensuite la famille s'est dispersée et la bibliothèque aussi, mais j'ai réussi à garder la steppe quand même avec moi et je l'ai prise avec moi pour faire ce voyage. La steppe, c'est justement le livre qu'il ne faut pas emmener en voyage. C'est celui qui ne permet pas de sortir de l'état de contemplation rêveuse dans lequel on est fatalement plongé après quelques milliers de kilomètres. Et c'est une contemplation qui peut vite devenir de l'ennui. On s'ennuie beaucoup dans les longs voyages. Les voyageurs en parlent rarement. Leurs récits sont toujours pleins d'épisodes extraordinaires, mais il est rarement question de ces journées entières passées sans rien faire, ces sortes de temps intermédiaires, ces journées à attendre un bus ou un train au milieu de nulle part, ces journées entières à regarder défiler le paysage par une fenêtre. Et La Steppe, c'est peut-être le premier récit de Tchekhov où il est vraiment question de l'ennui directement. Il y a un personnage, Dimov, qui semble comme marqué au fer rouge par ce mot. C'est un des compagnons de Yegor dans son voyage à travers la steppe. Il accompagne des paysans sur un chariot rempli de foin. Et il cherche querelle aux autres passagers. Et Yegor finit par s'en énerver et puis lui dit qu'il est méchant et se pose devant lui comme ça pour le faire taire. Et Dimov, évidemment, qui n'attend que ça, qui est un provocateur, Dimov, très heureux, l'insulte, etc. Et Yegor repart sur le chariot tout en haut du tas de foin. Et Dimov va aller le retrouver. Yegor, dit-il doucement, allez, bats-moi. Yegor le regarda avec étonnement. À ce moment, un éclair illumina le ciel. Allez, bats-moi, répéta Dimov. Et sans attendre que Yegor l'eût battu ou lui répondu, il sauta à terre et dit, je m'ennuie. Puis il longea d'un pas nonchalant la file de chariots, se dandinant d'un pied sur l'autre, roulant les épaules, répétant d'un ton tantôt larmoyant, tantôt dépité « Je m'ennuie, Seigneur. » « Ne te vexe pas, Emiliane, » dit-il en passant devant le roulier. « Notre vie est une vie perdue, atroce. » À droite, un éclair luisait et rebondit aussitôt, au loin, comme s'il se réfléchissait dans un miroir. « Je m'ennuie, » lança de nouveau Dimov à hauteur des chariots de tête, et sa voix trahissait la rage qui remontait en lui. « Je m'ennuie !» Soudain, le vent se leva avec une telle violence qu'il arracha presque des mains de Yegor son baluchon et la natte qui, fouettée par le vent, claqua de tous côtés, cingla le ballot de sa figure de l'enfant. De la... ouais, bon. « Je m'ennuie !» Et voilà, ce Dimov qui s'ennuie et qui répète ce mot... et peut-être annonce en tout cas tous ces personnages du théâtre de Tchekhov. Le serveur du bar du Transsibérien joue à la Game Boy, ou jeu vidéo, sur un grand écran.
Nous dépassons deux chariots et une foule de gueux et de bonnes femmes. Ce sont des colons. Vous venez de quelle province ? Koursk. À la queue traînaille un moujik qui ne ressemble pas aux autres. Menton rasé, des moustaches grises, une sorte de poche bizarrement appliquée sur le dos de son caftan. Il a sous les bras deux violons roulés dans des foulards. Inutile de demander qui il est ni d'où il sort ses violons. Impropre à rien, un sans-souci maladif, frileux, un peu porté sur la vodka. Un timide qui toute sa vie aura joué les laissés pour compte, les bouches inutiles, d'abord chez son père, puis chez son frère, qui n'aura pas eu son lopin à lui, qu'on n'aura pas marié. Un bien pauvre air. Toujours grelottant au travail, se grisant de deux petits verres, parlant pour ne rien dire, ne sachant que jouer du violon et s'occuper des gamins juchés sur le poil. Mais son frère a vendu son isba, son bétail, tout son bien, et il fait route avec sa famille vers la Sibérie lointaine. Le vieux garçon y va lui aussi. Où pourrait-il donc se caser ? Il a emporté avec lui ses deux violons. Une fois arrivé à destination, le froid sibérien le fera grelotter. Il dépérira et mourra sans bruit, en silence, de façon à passer inaperçu. Et ses violons qui, autrefois, faisaient la gaieté ou la tristesse de son village, passeront pour 20 kopecks dans les mains d'un commis indigène ou d'un déporté. Les enfants du commis arracheront les cordes, briseront les chevalets, verseront de l'eau dans le boîtier. Reviens donc, mon père, reviens.
Le baron de Baye, explorateur français qui traverse la Sibérie en 1896. Je me souviens qu'à une station, je vis un grand et fort colon. Sur sa poitrine découverte pendait, outre la croix, un petit sac d'étoffe. Monsieur Outchakov, après avoir questionné cet homme, me répondit qu'il était né en chemise et que selon une très ancienne pratique russe, il portait cette peau comme une amulette. On dit en Russie de quelqu'un qui est heureux, qui est favorisé par le destin, il est né en chemise, comme on dit chez nous, il est né coiffé. Ces colons, attirés vers la Sibérie par un entraînement, par un courant, par une poussée irrésistible, y parviennent avec une foi dans l'avenir qui tient du fatalisme et leur donne une force morale énorme, jointe à l'assurance du succès de leur audacieuse entreprise. Ces gens ont tout laissé. Parents, amis, clochers, champs, isbas, meubles, bestiaux, charrues, tout ce qui peut attacher au sol. Ils ont tout quitté. Ils emportent seulement, dans une sacoche, une poignée de la terre natale. Précieux symbole. Tels sont les artisans de cette œuvre colossale d'expansion et de peuplement, œuvre géante, mission providentielle à laquelle la Russie moderne est prédestinée. Ces émigrés parvenus dans leur nouveau cantonnement, là où ils doivent s'arrêter, jetteront quelques pincées de cette terre pour la mêler à celle dont ils viennent de prendre possession. Simple et touchante cérémonie représentant la fusion de l'ancienne et de la nouvelle Russie. Le colon conservera soigneusement un peu de cette terre afin que ses enfants puissent déposer sur sa tombe ce dernier souvenir de là-bas. Loin du lieu natal, il n'en dormira pas moins sous la terre qu'il a vue naître. Ce colon avait tout abandonné et n'avait emporté de la Russie que cette précieuse semence qui est l'image de la patrie.
C'était Anton Tchekhov, Voyage à Sakhaline, de Jean-Hugues Bérou. Texte de Tchekhov, Dostoïevski et Chalamov, dit par Clotilde M., Thibaut Vincent et Florence Lecor. Prise de son et mixage, Simone Ronger, Marie Le Peintre et Éric Villenfin. Réalisation, Jean Couturier. Un remerciement tout particulier à Pascal Rabaté.